de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission quotidienne en française, aujourd'hui le 30 avril 2020. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Bonne nouvelle, Masjidil Haram et la mosquée Nabawi rouvriront bientôt. L'Australie améliore les tests de virus corona avec des millions de nouveaux outils. La Corée du Sud demande aux citoyens de garder la vigilance liée au coronavirus pendant les vacances. L'ambassade de l'Indonésie a dit « Citoyens indonésiens aux Pays-Bas mènent des récitations en ligne pour le Ramadan ». Le premier ministre français a dit « Il est temps de desserrer la politique de quarantaine de la région ». Le président s'assure que les MPMO sont exempts d'impôts sur le revenu pendant 6 mois. Le ministère des coopératives et des PME invite les entrepreneurs à faire don de masques de PME dans la zone rouge de COVID-19. Voici le journal complet. Cheikh Abdul Rahman Al-Sudais a annoncé une bonne nouvelle aux musulmans du monde entier que Masjidil Haram et la mosquée Nabawi seraient bientôt rouvertes pour les activités de culte comme d'habitude. Cela a été dit par le président de Masjidil Haram et de la mosquée Nabawi. Cheikh Abdul Rahman Al-Sudais cité mercredi sur le compte de réseaux sociaux Aramain sur Twitter. Cheikh Abdul Rahman Al-Sudais a déclaré que Masjidil Haram et la mosquée Nabawi seraient ouvertes pour tawaf et les prières obligatoires et le hommage au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a révélé que l'ouverture de l'accès à Masjidil Haram et à la mosquée Nabawi avait été faite avec un calcul minutieux. Cheikh Al-Sudais invite tous les musulmans du monde à continuer de prier contre la pandémie de COVID-19. L'Australie a préparé 10 millions d'équipements de tests de COVID-19 pour commencer des tests approfondis qui devraient maintenir une diminution du nombre de nouveaux cas de virus corona et permettre la levée des restrictions sociales. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministre australien de la Santé, Greg Hunt. L'Australie, qui abrite 25,7 millions de personnes, a signalé environ 6 700 nouveaux cas de virus corona et 88 décès. Bien en deçà des chiffres rapportés aux États-Unis et dans certains des autres pays les plus touchés par l'épidémie de COVID-19. Cela est lié par le gouvernement australien à l'application des restrictions de la distanciation sociale et à la mise en œuvre du test du virus corona. Les autorités prévoient d'étendre les tests cette semaine pour tester également les personnes qui ne présentent aucun symptôme. Cette décision, selon le gouvernement, est très importante pour permettre l'assouplissement des restrictions sociales et la réouverture de certaines activités économiques qui avaient été fermées à cause de l'épidémie. Le gouvernement de la Corée du Sud demande au public d'être vigilant en maintenant les résultats qui ont été minutieusement obtenus face à la pandémie du coronavirus. La demande a été émise avant la plus longue fête depuis le début de la pandémie. Le ministre sud-coréen de la Santé, Kim Gang-lip, a déclaré mercredi, lors d'une conférence de presse, qu'environ 180 000 personnes visiteraient l'île de Jeju pendant 6 jours de vacances. Bien que le gouvernement de l'île ait demandé aux touristes de ne pas venir, les hôtels et les installations d'hébergement à la périphérie des villes de la province de Gangwon, qui accueillent les Jeux olympiques d'hiver de 2018, sont presque complets. Kim a demandé aux touristes de toujours porter des masques. Kim a également demandé aux touristes de ne pas partager nourriture et abri s'ils présentent des symptômes de fièvre ou d'essoufflement. Contrairement aux années précédentes, le ramadan de cette année aux Pays-Bas semble différent en raison de l'apparition d'une nouvelle infection par le coronavirus ou COVID-19 qui engloutit toujours les moulins avant. Les activités de culte spéciales pendant le mois sacré du ramadan, comme la récitation, les discussions religieuses et la prière tarawih, qui sont généralement organisées ensemble dans les mosquées, sont désormais menées différemment en utilisant la technologie virtuelle. Pour s'adapter aux dernières conditions, l'ambassade d'Indonésie à La Haye s'est lancée dans des activités d'études en ligne comme l'un des programmes du ramadan destiné aux citoyens indonésiens et au cercle de la diaspora aux Pays-Bas. Cela a été communiqué dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à La Haye reçue à Jakarta mercredi. L'étude a été menée 3 fois par semaine et a été remplie par des diplomates et des responsables locaux de l'ambassade d'Indonésie à La Haye. L'étude a été présentée directement sur la chaîne YouTube de l'ambassade d'Indonésie à La Haye et accessible au public à 20h30 heure néerlandaise tous les vendredis, samedis et dimanches. Le premier ministre français Edouard Philippe a déclaré mardi que la mise en place d'une quarantaine régionale avait sauvé 62 000 vies en un mois, mais le maintien de cette politique augmenterait le risque de ralentissement économique. Pendant la parole au Parlement, il a dit qu'il était temps d'expliquer aux Français comment la zone de quarantaine serait progressivement desserrée. Les citoyens français doivent apprendre à vivre avec le nouveau type de virus corona et à se protéger. Plus tôt, des scientifiques français se préparaient à lancer des essais sur l'homme pour tester leur hypothèse selon laquelle la nicotine pourrait aider le corps à combattre l'infection au COVID-19. Cet essai impliquera un groupe d'agents de santé et de patients qui utilisent des patchs de nicotine et d'autres groupes utilisant des patchs placebo. Les scientifiques émettent l'hypothèse dans la recherche que la nicotine qui est contenue dans les cigarettes peut affecter la capacité de la molécule de virus corona à se fixer aux récepteurs dans le corps. Le président Joko Widodo a confirmé l'octroi d'incitation fiscale aux micro et petites et moyennes entreprises, aux MPME, dont le chiffre d'affaires est inférieur de 4,8 milliards rupiah par an avec l'exonération de l'impôt sur le revenu final d'avril à septembre 2020. Le président, lors d'une réunion limitée à travers une vidéoconférence au Palais Merdeka Jakarta, espérait que l'exonération fiscale pourrait alléger le fardeau de MPME au milieu de l'impact de la nouvelle épidémie de virus corona ou COVID-19. Le président, lors de l'ouverture d'une réunion limitée sur discussion continue sur le programme d'atténuation de l'impact COVID-19 sur les micro, petites et moyennes entreprises, a déclaré que l'incitation fiscale était l'un des 5 programmes d'aide aux MPME poursuivre au milieu de la pandémie de COVID-19. En plus des exonérations fiscales, les MPME peuvent également restructurer les prêts, obtenir des entrées sur les prêts bonifiés et obtenir un assouplissement des versements. Le ministère des coopératives et des PME invite un certain nombre de grandes entreprises à participer au programme de solidarité pour le don de masques à travers le programme de mouvement de masques pour tous qui s'adresse aux petits commerçants de la zone rouge de COVID-19. Il s'agit d'une forme de participation conjointe à la lutte contre COVID-19. Le gouvernement ne peut pas être seul, il a besoin de la coopération de toutes les parties pour arrêter la chaîne de la propagation de COVID. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministre des coopératives et des PME, Teten Mas Duki, à Jakarta. Tous les masques collectés à travers de ce don sont de la production des MPME qui seront distribués aux micro et petites entreprises de la zone rouge de la pandémie de COVID-19. Le ministre a exprimé sa profonde gratitude à toutes les parties qui avaient travaillé ensemble pour demander une assistance gratuite aux marques pour les petits commerçants. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, surmonter la pénurie potentielle et la crise alimentaire due à la pandémie de COVID-19. La question de la disponibilité de la nourriture dans le pays est devenue plus tard un problème sérieux, en ligne avec l'incertitude de la fin de la pandémie du virus corona. De plus, à cette époque, le peuple indonésien célébrait le Ramadan et l'Idul Fitr 1441 Hijriah, où les besoins en denrées de base de la communauté sont de plus en plus élevés. Le président Joko Widodo, lors de l'ouverture d'une réunion limitée par vidéoconférence à Jakarta, mardi, a noté qu'il y avait un déficit de besoins de base dans diverses régions d'Indonésie. Le plus grand déficit est venu du sucre et de lait. Joko Widodo a déclaré que le stock de sucre actuel était déficitaire dans 30 provinces d'Indonésie. Autres produits qui ont connu un déficit, à savoir les œufs de poule dans 22 provinces, le riz dans 7 provinces, le maïs dans 11 provinces. Bien sûr, il a besoin d'une solution immédiate et ne laisse pas cette condition de pénurie alimentaire se prolonger. Les autorités alimentaires, dans ce cas le gouvernement central et les gouvernements régionaux, doivent trouver des moyens pour que la situation de pénurie alimentaire ne se prolonge pas. Dans les conditions actuelles, il n'est certainement pas facile pour des pays comme l'Indonésie d'emporter de la nourriture. De nombreux pays producteurs de denrées alimentaires limitent ou même ferment immédiatement certains marchés d'exportation de produits de base pour garantir que le stock national est suffisant. Les plus grands pays producteurs de blé au monde, comme la Russie, le Kazakhstan et l'Ukraine, ont ouvertement annoncé des restrictions sur les exportations de semences de blé. Semblable au riz, le Vietnam, la Thaïlande, bien que jusqu'à présent dénommés les grands à riz en Asie du Sud-Est, continuent de penser et de sécuriser les approvisionnements du pays. Il existe différentes manières de s'assurer que la production d'aliments de base se déroule bien et que les approvisionnements sont sûrs au milieu de la pandémie de COVID-19. Parmi les différentes manières utilisées par le gouvernement, la manière la plus importante et la plus urgente consiste à fournir des incitations aux agriculteurs. La décision du gouvernement de Joko Widodo de fournir aux agriculteurs une incitation de 600 000 rupiah par mois est très appropriée. Cette incitation est très appropriée dans les conditions actuelles afin que les agriculteurs puissent encore augmenter la production alimentaire au milieu de la pandémie du virus corona ou COVID-19. Les incitations lancées par le gouvernement peuvent certainement être un encouragement pour les agriculteurs à maintenir leur productivité afin que la disponibilité des aliments dans le pays reste garantie. Le gouvernement devrait non seulement offrir des incitations aux agriculteurs sous forme d'aide directe en espèces, le gouvernement doit fournir des incitations en achetant les produits alimentaires des agriculteurs. Le gouvernement américain a mis en place des incitations de cette manière, dans ce cas le département de l'agriculture des États-Unis, USDA. USDA a récemment, comme indiqué sur https://www.usda.gov, alloué un budget de 19 milliards de dollars américains ou environ 300 billions de rupiah à allouer à l'aide directe aux agriculteurs et aux éleveurs et l'achat de produits alimentaires des agriculteurs. USDA aide à acheter de fruits, des légumes, de la viande, du lait, etc. auprès des agriculteurs, puis aide au processus d'emballage et de distribution de ces produits alimentaires au point de distribution alimentaire ou des banques alimentaires. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler est décédé. Adolf Hitler est un politicien allemand et président du parti nazi né en Autriche. Il était chancelier de l'Allemagne de 1933 jusqu'à 1945. Il est devenu la figure dominante de l'Allemagne nazie, de la Seconde Guerre mondiale en Europe et de l'Holocauste. Le 30 avril 1945, après une bataille féroce et avant la défaite contre l'armée soviétique, Hitler et son épouse Eva Braun se sont suicidés. Elle a mordu la capsule de cyanure. Cependant, Hitler s'est tiré une balle dans la tête. Le 30 avril 1948, la déclaration de l'Organisation des États américains à Bogota. 21 pays des Amériques ont signé un accord de la création d'une organisation d'États américains à Bogota, en Colombie, le 30 avril 1948. Cette organisation avait pour but de protéger la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que l'instabilité de la situation due au commerce et à l'économie. En outre, l'accord vise également à bloquer l'influence du communisme qui se développe comme ce qui s'est passé à Cuba. Le 30 avril 1980, la reine du Pays-Bas, Juliana, a remis le trône royal à sa fille, Beatrix. La reine Juliana Louise Marie Wilhelmina van Orange-Nassau, née à La Haye le 30 avril 1909 et la reine du royaume hollandais du 6 septembre 1948 jusqu'au 30 avril 1980. Elle a donné le trône dans son 71e anniversaire de sa fille aînée Beatrix. La reine Juliana a visité l'Indonésie en 1972. Elle a démissionné de la politique depuis 1980. Mais elle était encore active dans le secteur social jusqu'en 1995. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
la première chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Voici donc mon Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Modernésie intitulée 3000 agriculteurs forestiers ont participé à l'enseignement à distance pendant la pandémie de COVID-19. Le directeur général de la foresterie sociale et du partenariat environnemental du ministère de l'Environnement et des Forêts, M. Bambang Suprianto à Jakarta lundi a déclaré que l'apprentissage à distance ou l'apprentissage en ligne de la foresterie sociale a été effectué pour 100 groupes impliquant 3000 agriculteurs forestiers ou accompagnants pendant la pandémie COVID-19. La formation a été ouverte par la ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya, et président de la commission 4 de la Chambre des représentants, M. Soudin, pour 7 sites, à savoir au Centre d'éducation et de formation de l'environnement et des forêts, le Centre d'éducation et de formation de Bogor, Kadipaten, Kupang, Aek Nauli, Samarinda et Makassar. L'apprentissage à distance et l'assistance de la foresterie sociale pendant la pandémie et le ministère de l'Environnement et des Forêts la mise en œuvre en tant que formation d'assistance forestière sociale post-licence. Cette activité a été réalisée en collaboration avec l'Agence de formation et de développement des ressources humaines et aussi de la Direction générale des forêts sociales et des partenariats environnementaux du ministère de l'Environnement et des Forêts. La formation dure 25 heures pendant 4 jours, s'est déroulée du 27 avril jusqu'au 18 juin 2020 par étapes, avec l'objectif de 3000 participants dans toute l'Indonésie divisés en 100 groupes. Un groupe comprend 30 participants. Selon M. Bambang Suprianto, cette formation vise à améliorer la capacité et la compétence des personnes qui y participent durablement. Cet apprentissage en ligne fonctionne également pour la socialisation de l'atténuation ou de la gestion du COVID-19 auprès de la communauté ou des groupes de foresterie sociale et l'assistance de foresterie sociale dans toute l'Indonésie, des groupes de travail d'accélération de la foresterie sociale et des organisations non gouvernementales, des communautés, des activistes de la foresterie sociale. Chers amis, c'était la rubrique Modernésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Dalamnya lautan tak bisa diselami, dalamnya hatiku tak bisa dimengerti, dalamnya rasa tak bisa ku pahami. Harus ku yakini hati ini, harus ku yakini cinta ini. Bawalah jaku dalam hatimu, bawalah diriku di dalam cintamu, bawalah jaku selalu
Chers auditeurs, c'était la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Ce soir, nous allons vous présenter la grotte de Song Terus, l'un des sites touristiques à Pacitan, Java Oriental. Restez toujours avec nous à la voix de l'Indonésie via www.voinews.id. Pacitan est une préfecture située dans la province de Java Oriental. Il y a de nombreux sites intéressants dans la ville de Pacitan, beaucoup d'options pour s'amuser telles que le surf, la natation, la plongée, le coucher de soleil, le camping ou bien la visite culinaire. Pacitan est surnommée la ville de mille tiang grottes et beaucoup de belles grottes fréquentées par de nombreux touristes. Les grottes qui sont connues dans cette ville sont entre autres la grotte de Gong, la grotte de Tabuhan, la grotte Kalak, la grotte Putri et la grotte Song Terus. La grotte de Song Terus est l'un des sites touristiques situés dans le village de Wareng, le district de Punung, dans la région de Pacitan, Java Oriental. Dans cet endroit, vous pouvez voir le site archéologique qui était autrefois la maison des anciens humains qui vivent à Pacitan. L'habitation humaine antique est une grotte qui a une longueur environ 150 mètres avec une largeur de 10 jusqu'à 20 mètres et avec une hauteur de toit de 10 mètres. Depuis 1999, ce site touristique est connu car on y a trouvé un ancien squelette humain estimé à environ 10 000 ans. Les archéologues et résidents locaux ont nommé cet ancien squelette comme Mbah Sayem. La grotte de Song Terus contribue grandement à l'histoire de l'Indonésie parce qu'ici se trouvent beaucoup d'objets préhistoriques utilisés par les humains anciens, tels que des outils faits d'eau, des coquilles et aussi des restes squelettiques d'animaux et d'humains. Cela a fourni des preuves suffisantes que cette grotte est utilisée comme une habitation passée et pleine de reliques archéologiques. Les installations disponibles ici sont uniquement des toilettes publiques, des parkings et des stands autour de la zone de la grotte de Song Terus qui fournissent de la nourriture et des boissons. Son emplacement est très facile à visiter. Les touristes peuvent utiliser des véhicules privés ou bien les transports en commun. Les heures d'ouverture de Song Terus de 8h du matin jusqu'à 17h du soir. Si vous avez un passe-temps de la photographie dans cet endroit, vous pouvez suivre le long de la grotte et immortaliser divers paysages sur la demeure de première humaine, y compris des peintures ou bien des dessins sur les murs de grotte. Bon, chers amis, c'était Magazine culturel de la Voix de l'Indonésie intitulé la grotte de Santrus située à Pacitan, Java Oriental. Merci à tous et au revoir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée la commémoration de la journée de l'éducation nationale 2019. En Indonésie, le 2 mai chaque année est célébré comme la journée de l'éducation nationale. Le 2 mai a été choisi comme la journée nationale de l'éducation pour commémorer la naissance de Ki Hajar Dewantara, figure pionnière de l'éducation en Indonésie et fondatrice de l'établissement d'enseignement de Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara était connu pour avoir osé de s'opposer aux politiques du gouvernement des Indes orientales en matière d'éducation qui ne permettait que des enfants nés hollandais ou des riches qui pouvaient étudier. Pour respecter ses services dans le monde de l'éducation indonésienne, le gouvernement indonésien a fixé sa date de naissance comme journée de l'éducation nationale par décret présidentiel numéro 316 l'année 1959, le 16 décembre 1959. Dans le cadre de la commémoration de la Journée de l'éducation nationale 2019, le ministère de l'Éducation et de la Culture a organisé la Semaine de l'Éducation et de la Culture qui a été officiellement ouverte par le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, le 26 avril à Jakarta. L'ouverture de l'événement a été marquée par la libération de centaines d'oiseaux par le ministre Muhajir, ainsi que par un certain nombre d'officiels et d'employés, d'enseignants et d'étudiants de première au secondaire. Le ministre de l'Éducation et de la Culture estime que l'activité de la Semaine nationale de l'Éducation peut être une tradition pour motiver les régions à continuer à augmenter les progrès de l'éducation. La série de célébrations de la Journée nationale de l'éducation 2019 a lieu dans diverses provinces d'Indonésie depuis le 20 avril 2019. Le jour de la commémoration de la Journée de l'éducation nationale a lieu aujourd'hui, le 2 mai 2019, au bureau du ministère de l'Éducation et de la Culture à Jakarta. La mise en œuvre de la Semaine nationale de l'éducation dans 34 provinces d'Indonésie est le fruit de la collaboration des unités de mise en œuvre technique du ministère de l'Éducation et de la Culture, de l'Association des jésuites indonésiens et du Bureau provincial de l'éducation. Diverses activités ont lieu dans le cadre de la Semaine de l'Éducation et de la Culture au bureau du ministère de l'Éducation et de la Culture à Jakarta. Entre autres, l'exposition de livres bon marché, les performances artistiques, les concours, les expositions de bourses d'études, le festival de carrière, conseillerie publique en collaboration avec la communauté, tous les étudiants, tous les enseignants, et aussi la performance des arts, et etc. Le clou de la célébration de la Journée nationale de l'éducation le 2 mai 2019 s'est déroulé au bureau du ministère de l'Éducation et de la Culture à Jakarta. L'événement a été précédé d'un défilé de participants de la cérémonie de tenue de l'archipel et ensuite la cérémonie du drapeau de la commémoration de la Journée nationale de l'éducation 2019. Des festivités culinaires et une discussion publique ont également eu lieu, suivies de spectacles de marionnettes. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la Culture, M. Didi Suhardi, espère que la commémoration de la Journée nationale de l'éducation incitera tous les acteurs de l'éducation et de la culture à continuer de renforcer l'éducation et encourager le progrès culturel, conformément au thème de la Journée nationale de l'éducation 2019, renforcer l'éducation, promouvoir la culture. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous avez écoutée. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Pour l'édition de ce soir, nous allons vous présenter une chanson de Nunung Wardiman. Une chanteuse nommée Nunung Yulianti Wardiman est l'une des meilleures chanteuses de jazz en Indonésie. Son nom est devenu connu depuis qu'elle a sorti deux séries d'albums intitulés Ton et Improvisation en 1981. Après cela, elle a sorti un album intitulé Nunung Wardiman en 1983. L'une des chansons principales de l'album sont Lettres d'invitation. La chanson créée par Julius Fiol raconte une femme qui a un jour reçu une lettre de son ex-petite amie qu'elle aime toujours. Malheureusement, la lettre contenait l'invitation de mariage de l'ex. Bon, serviteur, voici donc la chanson de Don Wardiman intitulée « Lettre d'invitation ». Bonne écoute et à demain.
Tinggal pergi, tiada kabar berita. Hidupku merana, berdebar hatiku. Tiba ujung suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali yang ku terima undangan. Esok akan mengingat janji sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali? Esok akan mengingat janji sahabat kariku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Doa selamat bahagia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
hatiku hancur mengenang dia. Berkeping-keping janjinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kini hancur berderang kepedihan berantai, kunci di hatiku yang lama ku simpan hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Itu dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kini hancur berderang di hatiku yang lama ku simpan hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu.
Voice of Indonesia.
Aku datang ke kotamu, lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan
kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau dirimu kini telah berdua, diriku pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak pernah lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Kini telah berdua, diriku tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak pernah lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan.
Bon, chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.